Atelier des médias, la deuxième partie sur RFI. Rendez-vous avec les observateurs de France 24 dans un quart d'heure. L'actualité vue par les non-professionnels et vérifiée par des journalistes. On parlera notamment de l'utilisation des médias dans la campagne électorale en cours au Liban. Mais avant cela, direction le Cambodge.
RFI. L'atelier des médias. Médias du monde. Philippe Couve.
Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour.
Vous rentrez du Cambodge où vous avez suivi récemment le procès des leaders Khmer Rouge. Et c'est à cette occasion que vous avez rencontré les journalistes d'un site d'information en ligne qui tente de faire une information indépendante au Cambodge.
Qui ne tente pas, hein, Philippe, qui réussit. C'est une équipe formidable, K7, à peu près 10 journalistes salariés, vous allez l'entendre. C'est aujourd'hui la meilleure information, l'une des meilleures en tout cas, par exemple, sur ce qui se passe au tribunal Khmer Rouge, en ce moment à Phnom Penh. Et j'ai rencontré une partie de l'équipe.
Alors on écoute votre reportage et on se retrouve juste après pour répondre aux questions que les internautes vous ont adressées après avoir découvert ce reportage en avant-première sur le site de l'Atelier des médias cette semaine.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour.
Ça va bien?
Entre.
La ferme pour les motos. Alors, on va monter. On partage les lieux avec GRS, qui est une ONG écolo. Ça nous fait un loyer un peu moins cher.
On n'est pas loin du stade olympique au sud de la ville.
Oui, exact. Près du marché olympique, en fait. Hein. Le stade olympique, il est un tout petit peu plus loin.
John Vink, photographe à l'agence Magnum et cofondateur de K7, né en Belgique il y a 61 ans.
Ça, c'est Sopiak, un des traducteurs. Monsieur Rosdina, qui est un des journalistes. Supong, qui est English-speaking Khmer, qui est notre webmaster. Et Jisuk Lee, qui est une traductrice. Voilà Soka, journaliste également, donc, de la première heure à K7.
Duong Soka, chemise bleue, petite lunette, bracelet bouddhiste au poignet. Le rédacteur en chef de K7 a le plus grand bureau de l'étage. Les fenêtres ouvrent sur la rue. K7, les oreilles et les yeux grands ouverts sur la mégalopole cambodgienne.
Je suis Duong Soka, je suis journaliste de K7, un site d'information indépendant mis en ligne quotidiennement en khmer, en français et en anglais.
On est dans votre bureau ici à K7. Il y a toujours du bruit à Phnom Penh. Vous entendez? Là, on entend la perceuse, il y a des gens qui bricolent, il y a le trafic. On arrive à se concentrer quand même?
Parfois, on est gêné en fait par les bruits, quoi, parce que Phnom Penh en ce moment, ça se développe en fait beaucoup, quoi.
Les Cambodgiens aiment bien les numéros. Hein. On est rue 318, numéro 19. C'est le siège de K7, au premier étage de cette villa.
Exactement.
Et K7, ça veut dire journal en khmer.
C'est un jeu de mots. Ça veut dire journal, mais c'est un journal en ligne. Quoi.
K7, K-A-S-E-T, pour dire journal en cambodgien, et 7 pour les 7 journalistes qui, au départ, étaient à l'origine du projet. Surfer sur les nouveaux modes de consommation de l'information dans un pays où l'Internet n'en est qu'à ses balbutiements, mais où tout va si vite. Aujourd'hui, la rédaction compte une dizaine de salariés à plein temps, auxquels s'ajoutent les pigistes.
Je suis en train de faire les statistiques du mois, là, qui expliquent un peu le nombre de visiteurs uniques qu'on a. Ça, c'est donc pour la partie Khmer. Ce mois-ci, on a eu 3638 visiteurs uniques, donc des individus qui ont visité le site, ce qui est plus que le mois dernier, où c'était 3438. Par exemple, je vais regarder pour le site en français. Voilà, alors on était à 11669 visiteurs uniques le mois dernier, en février, et là en mars, on est à 13 050. Donc ça fait 2000 personnes en plus qui viennent visiter le site.
Quels sont vos lecteurs, John? Vous les connaissez?
Alors on a fait une étude, il y a déjà longtemps, hein, on a fait ça il y a 5-6 mois, et uniquement sur les lecteurs francophones, je crois que c'était 500 ou 600 personnes, et dont à peu près 300 ont répondu. Je crois que c'était à peu près 60 ou 70% des gens étaient Bac plus 3, Bac plus 4, etc.
Le bureau, c'est une grande pièce, une terrasse au premier étage d'un grand building Khmer, et puis des ventilateurs évidemment partout, parce qu'il fait chaud en ce moment.
Et là, il tourne parce qu'il y a du courant, mais parce qu'on a à peu près 3 ou 4 heures de coupure de courant par jour. Donc là, on a vraiment de la chance de pouvoir effectivement bénéficier des ventilateurs. On n'a pas la clim parce que ça consommerait trop d'électricité. Et puis,
comment marchent les ordinateurs, les machines en général quand il n'y a pas d'électricité?
Alors, quand il n'y a pas d'électricité, on met en marche le petit groupe électrogène qu'on a été obligé d'acheter et qui fait un raffut de tous les diables, qui ne favorise pas vraiment la concentration dans le travail. D'autant plus que quand nous, on est obligé de mettre le groupe électrogène en route, le voisin doit faire pareil, donc il y a un capharnaüm invraisemblable en cas de coupure du courant.
La cloche de la marchande de glace, les machines à coudre, de la couturière, le vendeur d'œufs, tous les métiers, tous les visages des rues de Phnom Penh sont présents sur le site. Des reportages, de la vie et surtout, surtout, de la fiabilité dans l'information. Tous les journalistes de la Gazette numérique cambodgienne ont signé une charte de déontologie. Mieux, deux d'entre eux ont reçu le prix Elman Ahmed des droits de l'homme en 2008. Histoire d'une indépendance du Hong Soka.
En fait, l'histoire, c'est que nous, on était journalistes à Cambodge, mais en juin 2007, il y avait une crise au sein de la rédaction. Un journaliste de Cambodge a été limogé sans raison. Nous réclamons l'indépendance éditoriale. Par exemple, le projet de sous-décret visant à déterminer en fait, le statut des réfugiés au Cambodge. Et nous, on est en fait le premier à écrire ce genre de sujet. Justice, les droits de l'homme et politique.
Ce ne serait pas plus facile ici de... pas moi de parler de la mode par exemple ou de voitures ou de choses comme ça parce que vous choisissez des sujets difficiles là, les droits de l'homme, la politique.
Parfois moi j'ai du mal quand même donc à collecter des informations auprès des autorités, moi je reconnais ça, mais en tant que journaliste nous il faut faire des efforts parce que cassette ça donne au lecteur quelque chose de sérieux quoi.
Il y a beaucoup de confrères qui sont en ce moment au Cambodge, il y a le procès des Khmer Rouges, alors il y a beaucoup notamment de presse étrangère hein, présente ici à Phnom Penh. Beaucoup m'ont dit, pour ceux qui circulent dans la région, me disent que par exemple au Vietnam ou en Chine, c'est beaucoup plus difficile de travailler qu'au Cambodge.
En fait par rapport à certains pays de la région, en fait la liberté de la presse au Cambodge est mieux quoi. Mais en tout cas, la liberté de la presse a des limites quoi. Et le problème c'est que au sein de certains journaux, il y a quand même, on appelle une auto-censure, quoi. Et ce qui est regrettable, c'est que en fait, les médias audiovisuels ils sont contrôlés par le gouvernement cambodgien. Mais quand même, c'est incomparable non, par rapport aux pays communistes.
Une liberté limitée, mais incomparablement plus riche que chez les voisins vietnamiens et chinois. Dans les sujets récents de l'actualité cambodgienne, la rédaction s'est beaucoup mobilisée sur le procès des Khmer Rouges. Un procès raconté en images, bien sûr, et en numérique. John Vink.
Ça, c'est un des grands plaisirs que j'éprouve maintenant. C'est que d'abord, je photographie en digital depuis 4 ou 5 ans. Et la possibilité de diffuser les images dans l'heure m'est donnée, alors qu'auparavant, c'était impossible. C'était impossible avec le film, il fallait développer. J'ai fait ça hein, en Inde et au Pakistan et tout ça, développer les films dans une salle de bain et puis aller... Bon, maintenant, je rentre chez moi et une heure après, les images sont visibles à New York, à Tokyo, où veut-on. Donc en fait, là, je viens de terminer un diaporama audiovisuel sur la demande de pardon de Dutch au tribunal. C'est en anglais, malheureusement, mais...
Donc là, ce sont des images de la salle de presse du tribunal, de l'écran, prise sur l'écran de la télé, hein, qui retransmet le procès en continu. Et on voit l'accusé en gros plan, en train de lire debout sa déclaration avec sa feuille avec, en chemisette debout, dans le box des accusés.
Voilà, c'est ça.
De la photo, du son, des textes bien sûr, hein, cassette, beaucoup de textes, beaucoup d'articles. Bientôt de la vidéo ?
Bientôt de la vidéo, on a prévu, la bourse de la Fondation Lagardère est un petit peu destinée à ça, c'est pour développer justement toute la partie audiovisuelle.
Cassette, c'est aussi de l'information en ligne en trois langues, vous êtes nombreux à faire ça ?
Ici au Cambodge, je crois qu'on est à le faire en trois langues, on est les seuls.
Et les médias Khmer ont tous des sites internet, ça aussi c'est développé ? C'est nouveau ici ?
Non, c'est nouveau, je crois que c'est le Koh Samtepip qui a un site internet. Et je crois que c'est à peu près les seuls qui ont un site internet en Khmer. Le réseau, il se développe, il est encore extrêmement cher. La connexion internet est extrêmement chère. Elle s'est améliorée qualitativement. Quantitativement, elle se développe. Il y a plus de connexions maintenant. Je crois qu'on en est à 70 000 connexions maintenant au Cambodge par rapport à 40 000 il y a 3 ou 4 ans. Donc ça se développe. Mais un des freins, c'est le coût. Nous, on a une connexion ici qui fait donc du 512, c'est un peu technique, mais enfin 512 bauds par seconde, ce qui est à peu près le tiers d'un abonnement bon marché en France, illimité, et qui nous coûte $600 par mois. C'est-à-dire à peu près 10 fois ce qu'on paierait en Europe.
Là, maintenant, on est sur la terrasse.
Il y a un manguier en face, déjà. Ça fait une belle perspective.
Travailler en face d'un manguier quand on vient de Bruxelles, c'est quand même une vie qui a changé.
C'est faire un choix. C'est ou bien le pommier ou bien le manguier. Là, j'ai choisi le manguier.
John, comment vous avez fait ? Vous êtes grand photographe à Magnum. Vous avez choisi aujourd'hui de monter cassette. Tout simplement, pourquoi ? Est-ce que vous pourriez continuer à faire des photos, vous balader dans le monde ?
Oui, mais parce que d'abord j'ai acquis une certaine horreur du voyage. Je n'aime pas voyager, je trouve ça ennuyeux. Par contre, j'aime bien être ailleurs. Alors ici, je combine les deux. Je suis ailleurs en n'étant pas obligé de voyager. Et d'autre part, ça me permet, en étant ici sur place, de creuser vraiment beaucoup plus loin des sujets, d'avoir des... Je travaille par exemple depuis presque 10 ans sur les problèmes des expropriations et des spoliations de la terre ici. et j'ai récolté un matériel que personne d'autre n'aurait pu récolter, puisque enfin, j'y passe du temps, et dès que j'ai une opportunité, ben, je peux l'apprendre. Alors qu'un journaliste qui est basé à l'étranger, il doit venir, il rate un certain nombre d'occasions. L'histoire, c'est de parler convenablement de son jardin. Les jardins sont superbes ici, il y a plein de choses à raconter, et voilà, c'est ce que j'essaie de faire.
http://atelier.rfi.fr Médias du Monde.
Un reportage mis en onde par Simon De Creuse, un reportage que vous nous avez rapporté du Cambodge, Stéphane Lagarde, un reportage qui a particulièrement intéressé l'un des membres de l'atelier des médias qui se trouve à Rome. Abdoulaye Ba, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien le Cambodge, puis-je vous demander dans quelles circonstances vous avez découvert ce pays ?
En 1992, les Nations Unies ont organisé la plus grande mission pour le maintien de la paix au Cambodge. Et dans ce cadre, moi j'étais responsable adjoint des opérations électorales dans la province de Kandal. C'est la province qui fait le tour de la capitale.
Alors vous avez écouté le reportage de Stéphane Lagarde. Quelles questions souhaitez-vous lui poser ?
Étant Guinéen et mon pays ayant des problèmes, des graves violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant une certaine période de l'histoire du pays, je voulais savoir quelle était l'attitude de la population par rapport aux procès qui sont actuellement en cours. Parce qu'il me semble avoir lu quelque part qu'il y avait une bonne partie de la population qui était plutôt indifférente, pour ne pas dire pire.
Stéphane Lagarde.
Alors effectivement, on l'a lu notamment, allez sur le site de Cassette, vous verrez, l'article est toujours en ligne. Il y a eu une étude qui a été faite avant le début de ce premier procès qui disait qu'effectivement, on le sait, plus de 60% des Cambodgiens sont des jeunes, ils ont moins de 30 ans, ils n'ont pas connu cette histoire. L'histoire d'ailleurs des Khmers Rouges de cette période n'est pas encore dans les manuels scolaires. Alors effectivement, dans ces conditions, il y avait peut-être au début un peu d'indifférence. C'est une ONG américaine ou britannique qui avait fait paraître cette enquête. En allant à Phnom Penh et en lisant Cassette régulièrement, on s'aperçoit quand même qu'il y a une grande attente de la population. Moi, j'ai pu voir au tribunal presque toute la société cambodgienne, des fonctionnaires, bien sûr, des moines qui venaient assister aux audiences. Il y a quand même une énorme attente parce que, effectivement, ce tribunal a aussi vocation pédagogique, donc pour comprendre cette histoire. Et encore une fois, là, c'est aussi le rôle des journalistes de Cassette. Allez-y, tous les jours, en trois langues, il y a des papiers, des photos, des articles. C'est presque une des sources les plus complètes de cette histoire en marche. Tous les jours, sur le site, c'est raconté, ce tribunal.
Stéphane, il y avait sur le site de l'Atelier des médias une question de Ndiaga Diouf qui est à Dakar. Il s'interroge le fait que des Européens soient à la base de la création de ce site. Est-ce que ça ne constitue pas un facteur de blocage ou de méfiance pour le public cambodgien ?
C'est effectivement des Européens, mais aussi des Cambodgiens. L'équipe est plus que mixte. Je pense qu'il y a même davantage dans les salariés de Cambodgiens. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est de justement de ne pas tomber dans les pièges des journaux pour expatriés, j'allais dire, les journaux qui s'adressent qu'aux Français. Ça n'intéresse pas la population. Là, le but est bien de parler tous les jours, d'écrire en Khmer, notamment pour les Khmers d'ici, mais aussi de toute la communauté à l'étranger.
Samuel à Port-au-Prince vous demande quelles sont les sources de financement de Cassette.
Alors là, c'est compliqué, vous l'avez entendu, il y a eu la bourse Lagardère, une bourse donc financée par une entreprise en France. Ça vit sur ses fonds propres pour l'instant. Cassette, c'est difficile d'ailleurs. Le photographe que j'ai interrogé, là, John, me racontait qu'ils essayent par exemple de faire payer une cotisation sur la toile, de demander aux lecteurs, aux internautes de cotiser. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques ne sont pas, me disait-il, assez sûres, en tout cas pour ces paiements en ligne sécurisés. Donc déjà, ça fait ça de moins. C'est une entreprise privée. Tous les comptes sont publiés chaque année. Par transparence, encore cette volonté d'indépendance pour ne pas appartenir à un groupe quelconque. On publie les choses. Il n'y a pas d'argent de l'État. Cassette vit sur ses fonds propres pour l'instant et avec beaucoup de volontariat, souvent.
Question de Kali à Vienne, qui rejoint un peu les questions évoquées par Abdoulaye Ba tout à l'heure. Est-ce que le fait qu'Internet soit cher au Cambodge et encore peu diffusé, peu accessible, est-ce que c'est cela qui permet d'avoir autant de liberté sur Internet, puisque finalement, dit-il, ce sont surtout les étrangers et les personnes les plus riches qui ont accès à cette information.
C'est peut-être vrai, mais c'est en partie vrai d'ailleurs. Mais paraît-il, le ministre de l'Information lui-même au Cambodge lit tous les jours, ou presque tous les jours, Cassette sur le site. Donc je pense que s'il était fâché, il pourrait aussi s'énerver. On peut aussi toucher une élite qui s'énerverait de ne pas voir ce qu'elle veut dans le journal. ils sont absolument libres, Cassette, ils font pas d'autocensure. Je pense qu'il y a surtout de l'autocensure. Je sais pas si on l'a bien compris dans ce reportage. On a plus de liberté, m'ont dit. Alors là, ce sont les journalistes étrangers qui me l'ont dit. On a plus de liberté au Cambodge que dans les pays communistes de la zone. Simplement, parfois, il y a de l'autocensure, notamment par rapport au vis-à-vis des grands groupes financiers, dans l'immobilier ou dans d'autres secteurs. Il y a aussi des pressions, évidemment, sur certains sujets, hein. Duong Soka le raconte bien. Lui-même est lauréat du prix des droits de l'homme, c'est pas rien, hein, donné par HRW, donc Human Rights Watch, un grand prix du journalisme. Donc il y a un combat tous les jours quand même pour cette liberté, mais effectivement, peut-être que le fait qu'il n'y ait pas encore tout le monde qui lise Cassette fait que on est plus libre.
Merci Stéphane Lagarde, on peut réécouter votre reportage et trouver les liens vers le site Cassette sur le site de l'Atelier des médias. Abdoulaye Ba à Rome, je voulais vous remercier également, et puis on se retrouvera dans quelques semaines, c'est promis, pour parler d'une autre de vos activités qui concerne un mémorial en ligne auquel vous travaillez, qui concerne le camp Boiro en Guinée, un camp dans lequel des dizaines de milliers de personnes ont disparu à l'époque de Sékou Touré.
Là, je voudrais aussi vous rappeler que je fais partie de Global Voices, dont vous avez fait, sur lequel vous avez fait
un parler, oui.
Et qui répond à certaines des questions qui ont été posées tout à l'heure.
Tout à fait.
Merci. On se retrouve donc dans quelques semaines. À suivre dans cette émission, la rubrique des observateurs de France 24. C'est dans 3 minutes.
L'Atelier des médias. L'Atelier des médias vous remercie d'avoir écouté cette interview.
Choix musical de Simon de Creuse dans l'Atelier des médias. C'était le choix également du parti au pouvoir en France, l'UMP, pour certains de ses meetings. Ce morceau du groupe Management, ce morceau Kids, a été utilisé sans autorisation. Résultat des courses, l'UMP a été condamné par les tribunaux à verser 30 000 euros de dommages et intérêts à ce groupe. L'Atelier des médias, ça continue dans 20 minutes. Ce sera Mondo Blog avec Cédric Calongi et nos invités. On parlera du rôle des blogs dans l'éducation. Peut-on, doit-on utiliser les blogs lorsqu'on est enseignant? Avant cela, c'est l'heure de notre rendez-vous avec les observateurs.
L'Atelier des médias avec les observateurs de France 24. Vos yeux aux quatre coins du monde.
Lesobservateurs.fr.
Philippe Courbe, Julien Pain.
Les observateurs en compagnie de Julien Pain. Bonjour Julien.
Bonjour.
Les observateurs, des internautes aux quatre coins du monde, témoins de l'actualité, leurs infos, c'est votre équipe Julien qui les vérifie et les publie sur l'internet. Et on n'échappe pas cette semaine avec les observateurs à la grippe porcine.
Et on se demande quelles sont les précautions à prendre pour éviter d'être infecté. On se demande notamment si les masques de chirurgien que tout le monde porte au Mexique notamment sont vraiment efficaces. Nous avons demandé ce qu'il en pensait à l'un de nos observateurs au Mexique. Il s'appelle Alfonso Salgado. Il est chercheur dans l'hôpital où les premières victimes du virus ont été soignées, à Mexico. Il nous explique que les masques ne servent pas à grand chose. Malheureusement, la maladie s'attrape surtout par le toucher. Par exemple, si vous posez la main sur une poignée de porte qui a elle-même été touchée par une personne infectée et qu'ensuite vous touchez vos yeux ou votre bouche, là vous risquez d'être infecté. Comme les masques, c'est pas très efficace, Alfonso, lui, nous recommande tout simplement de nous laver les mains très régulièrement.
Un conseil valable en toutes circonstances, même quand il n'y a pas d'épidémie de grippe. Et pendant l'épidémie de grippe, la crise crise économique continue.
Alors sur les observateurs, nous allons vivre tout au long de l'année le parcours de gens qui sont des victimes de la crise. Alors nous suivons bien sûr des chômeurs et leur bataille pour retrouver un emploi. Mais cette semaine, nous publions également le commentaire de Stéphanie Nyota Mouloury. Stéphanie vit à Kinshasa, elle travaille dans une société minière et elle nous raconte que son entreprise va tellement mal qu'elle ne paie même plus les salaires de ses employés. Et Stéphanie, elle en a vraiment marre. Elle a réussi pour l'instant, tant bien que mal, à garder son logement en empruntant à des amis. Mais elle le dit sur les observateurs, à Kinshasa, en ce moment, on vit vraiment comme des mendiants.
Tout va mal décidément, puisque le vin français se vend de moins en moins bien.
La France est passée en quelques années de la première à la troisième place au classement des pays exportateurs de vin. Notre observateur Benoît Pétry, lui, il a son idée sur cette question. Il étudie le vin en Australie et il nous explique que ce n'est pas parce que le vin français il est moins bon qu'avant, c'est parce que nous ne savons plus le vendre. En Australie, par exemple, en un coup d'œil à l'étiquette d'une bouteille, même un néophyte sait à peu près à quel type de vin il a affaire. On voit tout de suite, par exemple, le nom du cépage. Alors que sur les bouteilles de vin français, on comprend rien. Les informations données sont trop compliquées. Et en résumé, Benoît nous dit que maintenant, pour vendre notre vin, il va falloir apprendre à parler simplement à nos clients étrangers.
Toutes ces infos, toutes ces images sont à retrouver sur le site des observateurs de France 24.
Vos yeux aux quatre coins du monde.
L'une des infos de la semaine sur le site des observateurs, Julien, c'est l'histoire poignante et terrible de cette mère de famille canadienne dont vous nous contez l'histoire.
Mais en fait, c'est elle qui raconte son histoire un peu directement sur le site des observateurs. Et c'est une histoire vraiment terrible. À la 19e semaine de grossesse, on lui a diagnostiqué quelque chose qui est très rare, qui s'appelle l'anencéphalie. Donc en gros, son fœtus n'avait quasiment pas de cerveau. Il y a uniquement une partie du tronc cérébral, mais par exemple, aucun des deux hémisphères n'était correctement développé. Les médecins, bien sûr, lui ont dit... Madame, on vous conseille d'avorter, votre enfant sera probablement pas viable, c'est-à-dire qu'il va mourir dans les quelques jours après sa naissance. C'est une femme très croyante. Elle a refusé d'avorter, elle a dit non. Et le petit miracle, c'est que son enfant, deux mois après la naissance, il est toujours en vie. Alors évidemment, ça pose des problèmes moraux importants. Et quand on a publié donc l'histoire de cette femme sur notre site internet, ça a provoqué des discussions extrêmement fortes. Fallait-il le garder, sachant que cet enfant, évidemment, n'a aucune activité cérébrale, il ne bouge même pas. Et donc on a voulu donner la parole à Mia, et qui nous explique que, évidemment, elle est très croyante, et au départ, sa première réaction, c'était de dire « l'avortement, c'est un meurtre, je ne veux pas commettre ce meurtre », mais elle dit finalement « c'est pas la vraie raison, c'est que ce bébé, je voulais le voir, je l'aime, quoi qu'il arrive, et je voulais qu'il vienne au monde et qu'il vive, même si c'est qu'un mois, deux mois, un an ». Elle voulait le voir. Et ce qui est étonnant sur le site des observateurs, c'est que la grande majorité des commentaires soutiennent vraiment cette femme dans son calvaire. Les internautes sur les observateurs disent bravo, vous avez eu le courage de le faire. Et quel que soit l'état dans lequel elle est, c'est un être humain, vous avez bien fait de le laisser vivre.
Discussion à laquelle vous pouvez participer sur le site des observateurs de France 24.
Lesobservateurs.fr. Philippe Couve, Julien Pin.
Direction le Liban maintenant, il reste encore 5 semaines de campagne électorale avant les élections législatives. Des élections qui se préparent dans un climat relativement tendu. Des élections dans lesquelles les médias, bien sûr, mais aussi les nouveaux médias tiennent un rôle particulier. En ligne avec nous de Beyrouth, un membre de l'atelier des médias. Bonjour, Djihad Bitar.
Bonjour.
Alors vous êtes membre de l'atelier des médias, mais vous êtes aussi blogueur et vous êtes surtout directeur de Comtrax qui analyse les médias arabes. Et c'est à ce titre que nous allons solliciter vos commentaires. Julien, on commence d'abord en évoquant les images d'un spot de cette campagne électorale. Spot qui a été produit par le parti de Michel Aoun et qui a choqué certains électeurs, ou plutôt certaines électrices.
Alors le slogan de cette campagne, c'était « Sois belle et vote ». Alors qu'on voit une très belle femme sur une image plein écran, hein, et donc le général Aoun et donc son parti au départ, l'idée c'était de dire ne suivez pas seulement l'avis de votre mari, car malheureusement au Liban il semble que ça arrive souvent, prenez-vous en main, venez voter et votez selon vos convictions personnelles. Malheureusement c'est pas du tout comme ça que ça a été reçu, et ça a été un peu reçu comme une preuve de machisme de la part du parti du général Aoun.
Djihad Bita, on a fait beaucoup de commentaires au Liban sur cette affiche et ce spot de la campagne électorale.
Énormément, énormément. Même que le général Aoun, lors de sa dernière conférence de presse lundi, les journalistes étaient quasiment... Il y avait 2-3 questions sur le sujet. Il a balayé du revers de la main toute la polémique, en tout cas de son point de vue, en disant il n'y a pas à polémiquer, voilà, c'est ça notre slogan, c'est ça ce qu'on essayait d'expliquer. Moi j'ajouterais aussi ce sur quoi essayait de jouer en fait le général Aoun et sa société de publicité, c'est sur le fait qu'en réalité une grande proportion des personnes qui suivent le général Aoun sont des femmes. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait eu ce message qu'ils avaient voulu faire passer. Et puis ça a été relativement assez mal perçu parce que, bon, évidemment, ça fait référence à « Sois belle et tais-toi ».
Si je comprends bien, on voulait donner une image valorisante de la femme et ça s'est complètement retourné contre les auteurs de cette campagne de pub.
Complètement. Et moi, bon, j'ajouterais aussi un point, c'est que ce qui est aussi intéressant du point de vue média, c'est qu'on a 40 jours des élections et c'est vrai que tous les murs, toutes les affiches sont quasiment dédiées aux élections. Et c'est le seul slogan qui était en français.
Tous les autres étaient en arabe.
Tous les autres étaient en arabe. Donc c'est ça que je trouve aussi assez intéressant pour les médias en fait au Liban.
Autre phénomène au Liban comme ailleurs, les leaders politiques sont désormais sous surveillance et filmés en quasi-permanence. Et c'est ce qui est arrivé au leader druze Walid Jumblatt, qui a été filmé par quelqu'un avec un téléphone portable. Et les images se sont ensuite retrouvées sur le web et elles ont provoqué la polémique, Julien.
Oui, c'est une énorme polémique, hein, parce que Walid Jumblatt, c'est évidemment la personne qui se veut un peu le rassembleur d'aussi bien des sunnites, des druzes, lui il est druze, et des maronites. Donc il essaie de se forger une place de rassembleur parmi ces différents courants. Et là, dans cette vidéo qui est de très mauvaise qualité, qui a été prise vraisemblablement avec un téléphone portable, on le voit en train de porter des attaques très virulentes entre druzes contre les autres communautés, et notamment dire en arabe que les maronites sont une sale race. Alors après, évidemment, il s'est excusé, je pense que c'était dans un contexte très particulier et que les images ont été sorties de leur contexte, mais c'est quand même un très très mauvais point pour le leader druze.
Merci Djihad Bitar d'avoir été en ligne avec nous de Beyrouth. Je rappelle que vous êtes membre de l'atelier des médias et que vous êtes le directeur de Comtrax qui analyse les médias arabes. C'est la fin de cette séquence observateur dans l'atelier des médias. Merci Julien Pain, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Tous les sujets dont on vient de parler sont sur le site des observateurs.
Les observateurs de France 24.
Les observateurs.
Dans quelques minutes, c'est le journal et on se retrouve de l'autre côté des infos pour Mondoblog, l'actu des blogs et des blogueurs francophones. On verra comment les blogs peuvent être utilisés dans les salles de classe. C'est dans 10 minutes avec Cédric Kalonji. Merci d'être fidèle à l'atelier des médias sur RFI et sur Internet.